6 juin 1944, 6 juin 2020. 76 ans après, je me souviens.
Michel Pommier habite à Saint-Lô, dans le département de la Manche. Il avait 8 ans en juin 1944.
Même pas au courant que c'était un débarquement, non. On entendait tirer, les roulements, quoi. Des bruits de pompe, ça aurait très bien pu être du tonnerre. Alors, ce qu'il y a, on voyait des avions passer dans le ciel, mais par centaines. C'était, le ciel était, c'était couvert d'avions. Et ils larguaient les, un petit peu comme des rubans d'aluminium. Ça brillait partout, 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 partout. Et ça, c'était en plein jour, hein, le soleil. Et bon, ben ça, on en faisait pas de quoi. Il y avait des avions, on savait que c'était la guerre. Mais ces avions-là, ils s'en allaient bombarder plus loin par ailleurs, sûrement. Mon père qui avait l'habitude d'aller se traîner en ville, il se ramène depuis comme il jurait. Eh ben, il dit, mon Dieu, tu verrais, qu'il dit à ma mère. Il y a les Américains, on se raccroche les Américains qui sont venus bombarder la gare. Ils ont rentré les wagons, il y a des tonneaux de pinards qui ont éclaté, il y a du chocolat partout. Et il avait un sac en jute, hein, qui faisait 4 ou 5 kilos, il met ça sur la table, et bien il dit, je récupérerai du chocolat. Et grâce au 6 juin et au premier bombardement à la gare, là, en soirée, on a découvert le chocolat, nous. À Saint-Georges, par exemple, à l'école, il y avait un petit muret. Et l'école normale, elle est un peu en dessous, à vol d'oiseau, elle est à 400 ou 500 mètres, même pas. Et il y avait les avions qui venaient mitrailler à l'école normale parce qu'il y avait une DCA. Et nous, on était assis sur le petit muret de l'école, à 300 ou 400 mètres de vol d'oiseau. Et on regardait ça. C'était un spectacle. La guerre, c'était un peu un jeu. Nous, et quand on pense à ça, vous rendez compte, l'avion, il venait souvent, il arrivait souvent par l'est. Donc, quand il tirait, il tirait en piqué. Mais supposez qu'il tire droit et qu'il vienne du sud-est, parce que les balles de leur mitrailleuse, ça allait à 3 km, hein, c'est pas des cartouches de chasse. Voilà. On aurait pu tous flinguer là sur le petit muret. Hein. Tous les après-midi, on allait faire des exercices de camouflage. Le maître nous emmenait, on allait dans un petit chemin, on marchait à 3-4 mètres les uns des autres, et puis au coup de sifflet, tout le monde applaudit dans le chemin. Et alors quand on avait un béret, c'est important là, quand on avait un béret, parce qu'avec le béret, on saluait les curés et les Allemands. Et quand on marchait sur la berne, on voyait un curé arriver à la bicyclette, il y avait beaucoup de curés. On le savait. Et j'ai vu les Allemands se mettre debout, parce qu'on les saluait de loin, nous, hein, les Allemands. Et j'ai vu les Allemands se mettre debout dans le camion et nous saluer. Il y a une femme du village, bon, parce que c'est un petit village, il y avait 5-6 cheminées, quoi. Il y a madame, Bouillon, qu'elle s'appelait, je crois, qui est venue, qui a dit, faut s'en aller parce que les Américains vont bombarder, je sais pourquoi, qui dit comme ça. C'était les prémices, ça. Alors on est tous sortis, ils nous ont dit il ne faut pas rester sur le village. Et le village était 6 maisons. Et donc on est sortis dans les champs après, qui se trouvaient derrière les maisons. Et il y a un gars du village là, qui avait fait une tranchée dans un champ, lui, pour se mettre à l'abri. Il avait fait une tranchée au pied du nez, mais une grande tranchée pouvait être à 10 de long. Et il avait recouverte de branches et de terre, tout ça. Alors on s'est réfugié là-dedans. Et ça s'est mis à... C'est maintenant que je dis, ça s'est mis à canarder. Tout compte fait, ils se sont dit, il n'y a pas de danger, on est sortis dans le champ, et tout d'un coup, le ciel s'est illuminé, ça a été un feu d'artifice. Et c'était les Américains qui étaient du côté de Pont-Hébert ou Saint-Jean-de-Dé, par là, qui tiraient sur les Allemands qui étaient de ce côté, au sud de Saint-Lô. Des obus passaient comme ça, au-dessus de nos têtes. Mais alors, des milliers, ça a duré 2 heures, 3 heures, 4 heures. On se posait pas plus de questions que ça, parce qu'on était debout, on regardait. On était émerveillés, quoi, c'était des feux d'artifice. Alors, bon, ben, après, ben, le vrai bombardement est venu, mais comme ça, doit être dans un creux par rapport à nous là-bas sur la butte, je me souviens même pas d'avoir entendu le bombardement. Et on était là-haut. Et c'était en feu. Ça nous a pas intrigué plus que ça. On est allé dans une ferme à 200 ou 300 mètres de là, passer la, juste la nuit, et quand on est revenu le lendemain matin, il y avait un obus dans la maison, qui avait fait un grand trou dans le mur. Ma mère était désolée, ça avait cassé toute la vaisselle. Elle avait juste sa vaisselle de mariage, dans un panier, prêt à partir. C'était... Enfin bref, on a bien fait de partir là, parce que c'était fini, on n'avait plus besoin d'elle en exode, donc t'es mort, parce qu'on vivait tous dans la même pièce. Non, je pense que les gens sentaient le danger. Moi, on est bien parti après le bombardement, là. Largement après le bombardement. Parce que ben, là, c'est là qu'il y avait de l'inconscience, quand même. Parce qu'ils savaient qu'il y avait du monde dans le bourg. Hein. Là, à Saint-Ronfert, il y avait certainement des dizaines de personnes. Hein. Peut-être plus, parce qu'il y avait des réfugiés d'arrivée. Là, si ça se trouve, il y avait des centaines de personnes. Et ils ont quand même tiré sur le clocher. Oui, ils tiraient, il fallait que ça casse. Je ne suis pas capable de dire que j'ai eu peur une seule fois. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est que la peur. Alors que les gamins de 13, 14, 15 ans, eux, ont eu peur. Je ne sais pas ce que c'est d'avoir eu peur. Au contraire, moi, les Allemands, j'en ai qu'une bonne image. J'ai jamais vu de violence. À Troisgau, il y avait un état-major dans la maison chez ma tante. Et puis il y avait des soldats, il y avait un officier, il y avait un commandant, il y avait des cerisiers, et les Allemands étaient tout le temps grimpés dans les cerisiers. Et puis ils achetaient de la crème parce qu'ils ne volaient pas, hein, les Allemands. Quand un Allemand prenait de la crème, il la payait. Hein. Et moi je me souviens, j'étais assis sur le bord des petits murets qu'il y avait. Il y avait une petite mare avec un puits là-bas. Il y avait des Allemands, là. Il y en avait un qui jouait de l'harmonica. Il était assis comme ça sur le mur. Il y avait un plateau de cerises entre nous deux. Lui, il avait un pot de crème, il mettait les cerises dans la crème. Et moi, je mangeais les cerises, je n'aimais pas la crème. J'avais les Allemands qui chantaient, qui étaient de bonne humeur, tout ça. Pas de violence. En revanche, quand la tante sortait de la maison, puis qu'elle voyait qu'ils étaient grimpés dans les cerisiers, elle partait en courant, elle les engueulait, elle revenait encore plus vite, et puis elle allait voir le commandant. Et le commandant, il sortait, mettait tout le monde au garde à vous dans la cour. Mais ça bronchait pas. Hein. Mais le lendemain, elle retournait cueillir des cerises. Après le bombardement, et les oncles sont revenus avec des copains, ils avaient quelques copains de leur âge, parce que mon oncle, il n'en avait qu'avec 18 ans à l'époque. Ils sont venus avec un chariot à bras, mais un chariot où on attelait un âne. Vous voyez, c'est du costaud avec des roues en bois, jantes en fer, autre comme ça. Et quand on est reparti, on est descendu la route de 40 ans, la rue Saint-Jean, pour aller dans la Dolée, pour essayer de traverser quelque part dans la Dolée qui était complètement chamboulée. Hein. C'était que des gravats. Alors, on a récupéré des bouts de bois, des tôles, un tas de trucs comme ça, pour arriver à faire des passages au-dessus des trous de bombe. Quoi. Certains étaient pleins d'eau, en plus, parce que la Dolée ne pouvait plus s'écouler, c'était bouché. C'est tout le quartier, là-bas, était noyé. Et alors là, passer le chariot, ça a demandé des heures et des heures pour traverser. On a monté une route qui monte derrière, sous le cimetière, et qui ressort dans le virage, route de Torigny. On est monté là, et il y avait des chars qui étaient brûlés tout le long, là. Il y avait 4-5 chars. Alors ça, pour que les chars soient brûlés, c'est qu'il avait fallu qu'il y ait de la casse. Il n'y avait pas âme qui vive. On n'a pas vu ni un Allemand, ni un Français. Il n'y avait pas âme qui vive. On était seuls. Mes oncles, ma mère, mon père, les gamins, hein. Parce que les gamins, on n'était pas dans les charrettes, on était au cul, on poussait la berouette. Et moi, je me souviens, alors ça m'a toujours marqué, j'ai aperçu, quand vous savez où est l'école de musique ?
Oui.
Hein, l'avenue avec les arbres, là, qui va au presbytère, hein, et à l'église Sainte-Croix. Et bien, j'ai encore en photo le tas de cailloux du clocher. C'est après que j'ai su que c'était le clocher de Sainte-Croix qui était écrasé, là où il y avait le Major Aoui, le cœur du Major Aoui. Je me souviens de ce tas de cailloux-là. Mais c'est pratiquement tout, dans la traversée de Saint-Lô. Mais ça a pris quand même des heures. Mais alors c'est là que je me dis, comment ça se fait qu'il y avait... Parce qu'il n'y avait personne. Alors, est-ce que les Allemands étaient planqués dans les trous? Moi, c'est ce que je me suis dit maintenant. Tous les coups, les Allemands étaient planqués dans les ruines. Parce que les Américains n'étaient pas passés encore. Parce que quand on s'est retrouvé de ce côté-là, par là, pont de Gourfaller, là, il y avait les Allemands. Mais ma sœur, la Kaida, et puis mon jeune frère, on a traversé. Et tout d'un coup, ils se sont aperçus que même mon petit frère et ma petite sœur n'étaient pas là. Alors, il y a un gars qui a fait demi-tour, avec sa femme d'ailleurs. Et tous les deux, ils ont dit, voulez-vous venir là? Ils étaient restés acheter des cailloux dans la ville. Et alors, il y en a un qui a dit, mais pas bien, hein. Les Américains, les Allemands font sauter les ponts. Un quart d'heure après, c'est pas les Allemands qui faisaient sauter les ponts, c'est les Américains qui sont venus mitrailler. Ils seraient venus un quart d'heure plus vite, ils pouvaient mitrailler les gamins, quoi. Alors, bon, ben, on est arrivé à Saint-Renfer, sans encombre. Le lendemain même, on a vu des gens arriver qui étaient encadrés par les Allemands. Les Allemands avaient fait... C'est ce qui prouve que les Allemands étaient bien là. Puisque les gens qui habitaient avec nous à Saint-Georges se sont trouvés sur la route deux ou trois jours après et sont arrivés à Saint-Renfer encadrés par les Allemands qui avaient ramassé tous ceux qui n'avaient pas évacué, y compris les gens de Saint-Loup qui n'avaient pas évacué. Alors il y en avait plein la route. Et comme nous, on était... Disons qu'on s'était assumés, ils ne nous ont pas mis dans l'eau. On a toujours été libres. On a suivi le même parcours que les autres, mais libres. Parce que les Allemands ont été responsables des gens qu'ils avaient encadrés. Ça se faisait sans bruit, quoi. Et en revanche, à Saint-Georges, à Saint-Renfer, ben, les gens, on a tiré des seaux d'eau parce que tout le monde avait soif. J'ai eu plus souvent des Allemands à mes côtés que des Américains. Ben, les Américains, ils passaient. Hein. Ils faisaient que de passer quand ils étaient là. Ceux qui venaient aujourd'hui, c'était pas les mêmes qu'hier. Hein. Ah bah ben oui, les Américains n'étaient pas en vacances. Hein. C'est ce que les Allemands, ben, ils étaient tous gentils. Il y a même eu un jour triste, il y avait un Allemand qui pleurait. Et puis mes tantes qui essayaient de le consoler. Oh, c'était un jeune... Je sais pas alors, mais c'était un jeune soldat. Et il pleurait, c'est les tantes et même les oncles qui le consolaient. Ben, il venait d'apprendre que toute sa famille avait été tuée sous les bombardements en Allemagne. C'était triste pour tout le monde. Hein. Parce que les Amerlocs, quand ils s'installaient pour 24 ou 48 heures, je ne sais pas trop, s'installaient dans les chemins, ils faisaient des trous d'hommes. Donc ils faisaient un trou d'homme, mais il y en avait un tous les 10 mètres. Et ils étaient bourrés de munitions et repartaient souvent en laissant des munitions sur place. Essentiellement des cartouches de fusil, quoi. Quelquefois des grenades. Et il y avait des chemins, on ramassait des milliers de cartouches. Mais des milliers, hein. On était une bande, quand même, on avait réussi à faire une bande de 10 ou 12. Et notre boulot, c'était de démonter les cartouches. On démontait les cartouches et on faisait des tas de poudre. Et là, on était dans les champs. Et dans les champs, il y avait des rubans entre les pommiers. C'était mi-danger, mine. Et nous, on jouait là-dedans. Heureusement que ça devait être des mines anti-chair. Et s'il y avait eu des mines anti-personnelles, autant qu'on serait mort. Mais ça devait être que des mines anti-chair. Alors, vous rendez compte, savoir qu'il y ait des gamins comme ça, on n'a jamais vu un bonhomme venir nous foutre des coups de pied au cul. C'est pas normal, il y avait des hommes quand même. Même si la plupart étaient prisonniers, il y avait quand même bien tant de villages. Il y avait un tueur. Non, on était... Mais le décès à l'air, vous rendez compte. Heureusement que les gens étaient insouciants. D'abord, quand je raconte ça à ma mère, elle dit, j'aurais pas pu survivre, parce qu'elle m'a dit... Alors que maintenant, on ne laisse même plus aller à gamin regarder notre procès. Hein? Et il y a toujours un qui avait une boîte d'allumettes, et on les faisait brûler. Mais je vais vous dire, quand vous avez démonté 1000 cartouches, ça fait déjà tant de poudre, ça fait peut-être des tas de 20 cm de haut, et on faisait brûler ça, et du coup on a foutu le feu à des pommiers, il y avait des pommiers qui brûlaient, qui flambaient. Vous voyez quoi ? Et on a fait ça, mais des dizaines de fois, sans jamais se faire botter le cul. C'est, moi, alors ça me dépense. Et quand on allait, alors ah ben là, on était allé à l'école, là. C'est quand on est allé à l'école, sur le bord de la route, vous voyez, quand vous traversez la forêt de cerisier, quand les bûcherons sont venus tracer les bûches de bois, là, et bien il y avait ça, le long de la route, mais c'était des obus. C'était pas des bûches de bois, c'était des obus qui étaient empilés comme ça, sur des dizaines de mètres. Il y avait des tonnes d'obus, voilà, qui avaient été récupérés. Et c'est pareil, c'est peut-être des soldats, il y avait peut-être des soldats chargés de récupérer tout ça, je sais pas. Incapable de vous dire, mais alors il y avait ça. On n'a jamais essayé d'aller y toucher. En revanche, on avait dû nous faire la leçon. Mais pour les cartouches, là, on n'a pas fait la leçon. Oh oui. Un jour, je tombe sur un petit obus, un obus de canon de 30 mm, je ne sais pas quoi, anti-aérien ou un truc comme ça. Et l'idée m'est venue, parce que je savais qu'en tapant au cul, ça pouvait faire du bruit. L'idée m'est venue, planter l'obus dans la terre, sous une charterie, on appelle ça, là, on ramassait les panneaux. Et j'ai tapé au cul. Et à un moment donné, ça a explosé. Un grand boom sous le hangar. Là, ma mère est sortie en courant. J'avais fait péter le machin. J'ai eu de la chance parce que, comme ça va de la terre, le bout a dû s'enfoncer dans la terre et la douille a volé. J'aurais pu faire. Dingue. Alors, ma petite sœur a des grenades dans les mains. On n'a jamais eu l'idée de jeter des grenades. Mais en revanche, quand on est revenu à Saint-Lô, on jouait encore avec les engins de guerre dans les champs, là. Il y avait des obus de mortier qui traînaient, qu'on récupérait. Moi, j'ai juste connu un accident d'un copain qui avait dégoupillé une grenade. Et il a eu le bras arraché. Mais ce n'était pas un gars qu'on fréquentait. Je l'ai fréquenté qu'après, en revenant à Saint-Lô, quand il avait 13 ans, 12-13 ans. Ah oui, là-dedans, il y a des bombes. Là, c'était bombardé. Le chemin du Burel, là, il y avait des gens qui s'étaient réfugiés, il y a eu des dizaines de morts, il y a des corps qui n'ont même pas retrouvé, qui ont été vaporisés. Il y a un mec de la ferme, là, il a retrouvé le corps de son gars dans la cour et il n'a jamais retrouvé la tête. La tête est peut-être partie dans l'étang, il y a un étang à côté, là. Ici, là. Moi, sur ce que je me souviens, il y avait des gens qui s'occupaient des autres. Mais il y avait de l'entraide. Bon, il y en a encore, heureusement. Mais c'est plus la même chose, ça n'a rien à voir. On était libres comme l'air. D'abord, il y a pas eu on n'est pas retourné à l'école tout de suite. C'est pareil, mais vachement marqué à l'école. Et rendez compte, j'ai mangé des poires au sirop qu'il y avait au dessert. Connaissais pas ça, des poires au sirop. Parce qu'il faut se dire que nous, une tranche de pain et un morceau de sucre, c'était déjà bien. Parce que c'était pas tous les jours. Pas tous les jours sans pain, ça existait. Enfin, ça ne nous a pas empêchés de passer à travers. C'était serré parce que moi, à 8 ans, comme j'avais, commence à manger, là. Je suivais mes petits frères et mes petites sœurs, mais qui avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et j'attendais qu'ils jettent leurs croûtes pour récupérer les croûtes dans la cour. Parce que moi, j'ai crevé de faim. Hein. Ah oui, j'ai crevé de faim. Heureusement que je mangeais des pommes. Moi, quand je raconte ma vie, j'ai vécu de pain, d'œufs et de pommes. Un soir, on s'est couché, on s'est mis sous les banneaux. Il y avait les Allemands dans le champ. Et le lendemain, il y a un gars qui dit « C'est bizarre, les mecs qui arrivent là, de l'autre côté de la haie, c'est pas des Allemands. » C'était les Amerlocs. Et bien le soir, on s'est couché avec les Allemands dans le champ, et le matin, on s'est réveillé avec les Américains. Et là, on a commencé à avoir les bonbons. Et alors, ça, c'est incroyable. Les Allemands, ils se caltaient. Ils avaient le sens du repli et de s'installer plus loin, et puis de rattendre les Amerlocs. Et c'est là que ça canardait, mais c'était déjà loin. Les Allemands, ils reculaient, ils s'installaient, mais il y avait les chars, il y avait les canons, ça, faisaient des barrages, il y a eu ça. Et bien, dans la journée qui a suivi, ça a été un flot continu d'Américains, 4x4 dans les chemins. Ça passait comme un ruisseau. Mais des milliers d'hommes qui sont passés pendant une journée. Dingue. Et ils installaient un campement. Mais un campement, c'était la foire de l'essai, hein. Quand ils installaient un campement, les Amerlocs, il y avait des stands, c'était presque la foire. Hein. Bon, il y en avait qui étaient en train de se faire tuer, peut-être à 2 km de là, mais là, il y avait les stands, il y avait tout ce qu'il fallait. Et puis, parce que moi, ça a été une bonne période, ça. Alors forcément, quand il y avait les femmes dans le coin, il y avait les Amerlocs qui draguaient. Et moi, j'avais 2 tantes qui étaient jeunes, qui avaient la vingtaine d'années, hein. Et ils venaient draguer. Je ne sais pas, moi, pour les filles, pour se couvrir, elles m'emmenaient souvent avec elles. Alors moi, j'allais avec les Amerlocs, il y avait des chenillettes, qu'on appelait ça. Et c'était des petits changeants à chenilles, on pouvait être 6 ou 8 là-dedans. Savoir ça, quand ils allaient dans les chemins, les chenilles étaient dans la haie, comme ça, de chaque côté, puis il y avait le vide en dessous. Et quand ils voulaient aller draguer les filles, ils m'emmenaient dans le camp, là, c'est le champ de foire. Ils m'emmenaient voir les stands où il y avait des bonbons et tout ça. Et puis ils allaient se promener avec les tantes. Alors là, j'ai mangé des bonbons. Je ne savais pas ce que c'était que de manger des bonbons. Là, j'ai eu une belle période. Bon, puis ça a dû durer 8 jours, ça. Et puis, les Amerlocs sont partis vers le sud, et puis nous, on est revenus vers le nord. Il y avait les Amerlocs. Ils venaient, comme mon grand-père, ils venaient bistrot. Enfin, son fils. Et il venait au bistrot. Bon, alors il y avait les tantes. Et les Américains, ils venaient draguer les tantes tous les soirs. Et moi, je m'étais fait un copain. Là-bas, c'est en fer. Je n'ai jamais su son nom. Je suis incapable de dire. Et un gamin de mon âge. Et de l'autre côté de la route, c'est mon grand-père, il y avait une maison, là, un petit peu juste après l'église. Et nous, on s'était fait notre camp retranché dans le grenier. Donc les Américains, ils venaient tous les soirs faire des distributions de cigarettes aux hommes. Ils étaient dans les jeeps et ils jetaient des paquets de cigarettes comme ça. Alors tous les hommes avaient des caisses à munitions, des caisses en bois à munitions, mais il n'y avait pas de munitions dedans, mais les caisses étaient pleines de cigarettes. Et tous les hommes avaient des cigarettes, des caisses de cigarettes sous le plumard. Et bien nous, on avait récupéré une caisse à munitions aussi, mais c'était sympa, les Amerlocs, ils n'avaient pas pensé qu'aux hommes, ils avaient pensé aux gamins. Et en même temps qu'ils balançaient les cigarettes, ils balançaient autant de rouleaux de bonbons de l'autre côté, de notre côté, parce qu'il y avait des rouleaux de bonbons acidulés. Il y avait des bonbons, mais alors, on en avait des kilos, hein. Vous auriez pu finir diabétique, heureusement que j'étais maigre comme un coucou. on n'était pas gêné par la graisse. Hein. Et ben, on en a mangé des caisses de bonbons et des pâtes de fruits. Voilà, il y avait des bonbons et des pâtes de fruits. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Mais on avait une chaise comme ça. On allait faire des virées, mais après le passage des Américains, là où ils avaient installé leur camp, tout ça, on allait faire une virée parce qu'ils laissaient plein de trucs à traîner. Hein. On revenait, on avait des poucs pleines de sacs de gâteaux, des paquets de gâteaux. On en a mangé des gâteaux. Et puis un jour, il y a un couillon qui dit comme ça, « Oh, faut pas les bouffer, leurs gâteaux, ils sont empoisonnés !» Il disait ça. Avant, on aurait dû être mort parce qu'on en avait bouffé. Alors ça, avec mon oncle Georges, c'était... Oui, il y a une histoire triste. Il y a une femme qui était arrivée, bah, pareil, avec 6 ou 7 gamins. Et elle avait son mari qui était avec une brouette qui était plus loin derrière. Et elle a voulu redescendre, voir si où il était. Et en descendant, il y a un obus qui est tombé au pied du cimetière. Et elle a été tuée. Parce que les Américains... C'est les Américains qui démolissaient les clochers. Ils visaient les clochers parce que c'était des postes d'observation pour les Allemands, ça. Alors ils foutaient tous les clochers en l'air. Et ils ont tiré ce clocher de sa renfer. Ils ont retourné le cimetière et le clocher est toujours debout. Mais ils ont retourné le cimetière. Et là, malheureusement, il y a cette femme-là, de mère de 7 gamins, qui a été tuée. Et la tête coupée par un éclat d'obus. On allait traîner dans la nature. Ce qui me surprend, c'est le silence. C'est paradoxal. C'est le silence et on rencontrait personne. Et on est arrivé dans une petite ferme. Ça n'avait pas été bombardé, rien du tout. Il y avait la maison. À l'ouest de la maison, il y avait un appentis. Et il y avait deux portes en bois qui étaient grandes ouvertes, et là, par terre, il y avait un homme mort. Alors là, moi, ce qui m'a soufflé, c'est que c'était un noir. Et c'était un soldat américain. Alors c'était un soldat américain. Alors, j'étais pas ému. Pour moi, c'était un homme qui était en train de dormir. Et alors mon oncle, je me souviens que mon oncle m'a dit, oh ça c'est encore un café des conneries, il m'a dit un truc comme ça. Et j'ai appris qu'après, quand il y avait eu déjà le cas à Saint-Georges, il y avait eu 7 noirs qui avaient été pendus au tilleul, parce qu'ils avaient violé des femmes. Et ce noir-là, c'est le seul mort que j'ai vu, c'est un noir. C'est ça qui m'a peut-être marqué le plus, que ce soit un noir. Jamais vu de noir. Je ne savais pas que les hommes noirs existaient. Quoi. Oui. Mais ça faisait pas peur. Ça m'a même pas fait peur, non. Il donnait l'impression de dormir. Quoi. Il avait été tué certainement par balle. Ce qui fait que je n'ai pas été traumatisé du tout par la guerre. Au contraire, la guerre est un terrain de jeu. Du tout. Et ça a continué. Après, la guerre est un terrain de jeu, mais alors là, dangereux. Hein. Là, c'était jeu interdit. Hein?
Podcast by Tendance Ouest.